Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Hussein Bourgi, conseiller régional PS d'Occitanie, candidat au sénatorial du 27 septembre. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Hussein Bourgi, première question, est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter d'abord votre parcours personnel et politique ?
Ah, mon parcours personnel, il est celui d'un fils d'immigrés libanais né au Sénégal. Et donc, lorsque j'ai eu mon bac en 1992, je suis venu en France pour étudier. Je me suis venu à Montpellier, en particulier à la faculté de droit. Et donc, lorsque je suis arrivé à la faculté de droit, quelques mois plus tard, j'ai rejoint une organisation étudiante, en l'occurrence l'UNAFIDE à l'époque, parce qu'il y avait quelques situations qui m'exaspéraient concernant le traitement des étudiants étrangers. Naturellement, ceux qui m'étaient les plus proches, ceux que je connaissais le mieux, étaient les étudiants sénégalais ou libanais originaires du Sénégal qui n'avaient pas la chance comme moi d'avoir la nationalité française et qui étaient confrontés à des difficultés administratives pour obtenir un titre de séjour, la régularisation de leur situation et qui faisaient qu'ils devaient souvent sécher les cours pour aller faire la queue devant la préfecture. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai eu l'occasion de rencontrer celui qui était le maire de la ville de Montpellier, en l'occurrence Georges Frêche, puisqu'il était aussi enseignant à la fac de droit. Donc, moi, je ne l'ai pas eu comme prof. Et puis, très rapidement, je me suis engagé en politique, au mouvement des jeunes socialistes, puis au Parti socialiste. J'étais un militant de base jusqu'en 2012. Et puis, en 2012, j'ai été élu premier secrétaire fédéral. Et donc, dans quelques mois, je mettrai un terme à ces fonctions que j'ai assumées pendant 8 ans dans le département de l'Hérault.
Et la figure de Georges Frêche a été très importante pour vous dans votre vie. Vous lui restez fidèle.
Oui, effectivement, parce que j'ai vu quelqu'un façonner sa ville, la développer. Et puis j'ai eu la chance, après mes études, d'aller travailler à la Poste pendant 3 ans. Je travaillais à la direction départementale de la Poste dans le département de l'Hérault. Et 3 ans plus tard, il m'a demandé de venir travailler à ses côtés. Et donc j'ai eu l'occasion de travailler pendant quelques années à ses côtés comme collaborateur à la mairie de Montpellier. Et c'est quelqu'un que j'ai observé théoriser l'action politique, mais surtout la mettre en œuvre. Voilà, il fait partie de quelques personnes qui sont des repères sur le plan politique pour moi.
Alors Hussein Bourgi, quelles seront vos priorités pour l'Hérault, votre département, si vous êtes élu sénateur le 27 septembre ?
Alors, les priorités que je porte, elles sont des priorités qui peuvent concerner tous les Français et toutes les Françaises, mais singulièrement celles et ceux qui habitent dans les départements du sud de la France, puisqu'effectivement, le réchauffement climatique, c'est un des enjeux majeurs auxquels nous sommes confrontés. Nous avons 342 communes. L'année dernière, 74 de ces communes ont été classées en catastrophe naturelle en raison de perturbations climatiques, de la sécheresse, des épisodes méditerranéens de pluie, des épisodes cévenols qui ont conduit à des inondations, des orages de grêle en plein mois d'août sur le vignoble qui a détruit plusieurs dizaines d'hectares de vignes et plusieurs dizaines d'hectares de cultures maraîchères. Malheureusement, ce sont des phénomènes qui se reproduisent année après année. Nous avons aussi de belles plages, mais force est de constater que l'érosion fait son œuvre et que le trait de côte recule, ce qui peut, dans quelques années, provoquer des phénomènes de submersion marine. Concrètement, ça veut dire comme les tsunamis qu'on a pu voir et qui ont tué parfois des milliers de personnes. Bon, nous, dans notre territoire, ça pourrait être des submersions marines qui viendraient inonder toutes les maisons et tous les villages qui sont au bord du littoral et qui peuvent parfois avoir des conséquences mortelles, malheureusement, puisqu'il y a quelques décennies de cela, dans notre département, un tel phénomène avait eu lieu et qui avait malheureusement causé la mort de plusieurs personnes. Il y a aussi la gestion de l'eau, la raréfaction de la ressource en eau. Nous sommes dans un département, comme beaucoup de départements du sud de la France ou de la façade atlantique, qui attirent de la population, mais qui sont aussi exposés au réchauffement climatique. Donc la ressource en eau se raréfie, ce qui pose des problèmes pour l'activité agricole et viticole, ce qui pose un problème pour le pastoralisme, pour l'élevage en plein air et en liberté des moutons, des chèvres et des vaches en particulier, parce que vous le savez, nous avons un département qui est assez pluriel dans sa physionomie. Nous avons à la fois les grandes villes du
littoral, les grandes villes autour de Montpellier, Béziers, Sète, Lunel, mais nous avons aussi beaucoup de territoires qui sont marqués par la présence viticole, le Pic Saint-Loup en particulier, Saint-Chinian. Ce sont des terroirs qui disent quelque chose à vos auditeurs et vos auditrices, mais nous avons aussi beaucoup de terres arides sur lesquelles c'est le pastoralisme, c'est l'élevage de plein air, je pense en particulier au Larzac, puisqu'effectivement nous avons beaucoup d'éleveurs qui élèvent des moutons sur ce territoire-là et qui fournissent les caves de Roquefort en lait pour le fromage. Donc voilà, nous avons ce sujet-là à prendre en compte. Un deuxième sujet, c'est la désertification médicale. Aujourd'hui, en France, tout le monde s'accorde à reconnaître que c'est un vrai enjeu de société, que ce soit dans les quartiers populaires des grandes villes, dans les quartiers populaires des départements très urbains, et c'est un enjeu aussi dans les territoires ruraux des grandes villes, et aujourd'hui, des grands départements, pardon, et aujourd'hui, par exemple, dans les grandes villes comme Montpellier, selon les quartiers dans lesquels nous évoluons, vous pouvez avoir une présence satisfaisante de médecins généralistes, et puis dans les quartiers populaires où les médecins généralistes partent à la retraite et on a du mal à trouver de la relève. Et lorsque nous faisons une heure de route depuis Montpellier ou depuis Béziers, un peu plus au nord, là nous arrivons sur des territoires où il n'y a plus de présence médicale qui est assurée. Je parle de la présence du médecin, mais je pourrais par extension parler des écoles parfois qui ferment, et je pourrais parler des agences postales et des bureaux de poste qui ferment. Donc c'est une réflexion sur l'aménagement du territoire, le maillage avec les services publics, avec cette présence d'hommes et de femmes qui permettent à la qualité de vie de demeurer dans un village ou dans une petite ville, les médecins, le service, le commerce de proximité. Voilà, c'est tout cela que nous portons pendant cette campagne. Et après, il y a naturellement des enjeux qui sont des enjeux transversaux. Moi, je porte une réflexion très, très ambitieuse sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société, à tous les âges de la vie, que ce soit dès l'enfance. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de familles peinent à trouver des places dans les établissements scolaires pour y inscrire leurs fils ou leurs filles. Ce ne sont pas les places qui manquent en réalité, c'est tout simplement parfois les difficultés qu'ils peuvent avoir à obtenir une auxiliaire ou un auxiliaire de vie scolaire qui va accompagner cet enfant tout au long de la journée. Puis la difficulté dans l'accès au logement des personnes en situation de handicap physique, on trouve peu et pas assez à mon goût de logement adapté pour une personne qui est en fauteuil. Une personne qui est en fauteuil a besoin d'un logement qui est aménagé différemment des autres, a besoin d'un logement où les portes sont plus grandes pour permettre d'entrer en fauteuil, a besoin d'une salle de bain aménagée, a besoin d'espace dans les différentes pièces pour avoir un sens de giration pour son fauteuil, pour se mouvoir dans son appartement. Et puis à la question de la prise en charge du handicap mental dans notre pays qui n'est pas satisfaisant du tout. Ça c'est un des sujets aussi que je développe pendant la campagne. Il y en a beaucoup d'autres, des questions qui concernent directement cette fois-ci les collectivités, comme la décentralisation. Donner plus de pouvoir, plus de compétences aux élus locaux, tout le monde y est favorable, mais avec quels moyens? Donc la question reste posée. Voilà, quelques-unes des thématiques que nous abordons pendant la campagne avec mes policiers.
Alors justement, Hussein Bourgi, durant la crise du Covid, les élus locaux ont été en première ligne, le maire, le conseil régional, départemental. Ils ont été là pour les masques, les colis alimentaires par exemple. Être sénateur, c'est aussi être le relais à Paris de ces élus locaux.
Et effectivement, comme vous le savez, la semaine dernière, le président de la République a mis à l'honneur Gambetta, qui est le père fondateur de la Troisième République. C'était le 150e anniversaire de la fondation, de la création de la Troisième République. Et Gambetta, qui a été l'inspirateur de cette République, disait que le Sénat était le grand conseil des communes de France. Et à travers cette formule, il voulait tout simplement signifier que les 36 000 communes de France devaient avoir un endroit où elles pouvaient se faire entendre, où elles pouvaient faire remonter des revendications, mais aussi des expériences du terrain. Je peux vous assurer que dans mon département, lorsque le confinement a été décrété, nous nous sommes retrouvés en première ligne, les élus locaux, quelle que soit la taille de leur commune, quels que soient les moyens financiers, quels que soient les moyens humains avec les services dont disposaient certaines communes. Mais moi, j'ai vu autour de moi des communes où, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de moyens financiers et où municipaux, le nombre d'agents municipaux se limitait à 2 ou 3. Ce sont les élus qui ont pris en charge cette nécessaire solidarité à l'échelle d'un village, à l'égard des personnes les plus âgées, à l'égard des personnes les plus isolées, à l'égard des personnes démunies. Et je vais vous apporter le témoignage qui fut le mien pendant cette période. Naturellement, il y a des solidarités à l'échelle de mon quartier à Montpellier qu'on a pu créer avec des familles qui n'avaient pas nécessairement une imprimante. Une imprimante pour imprimer des attestations de sortie de circulation. Une imprimante pour certaines familles qu'elles n'avaient pas ces familles, et cette imprimante qui ne permettait donc pas d'imprimer les devoirs que les enseignants envoyaient aux familles pour assurer une continuité scolaire. Donc nous avons mis en place un réseau de solidarité à l'échelle d'un quartier. Nous imprimions des attestations que nous déposions à la boulangerie. Des familles qui n'avaient pas d'imprimante mettaient des messages sur les réseaux sociaux, et d'autres voisins qui imprimaient les devoirs des enfants de ces familles et leur glissaient dans la boîte aux lettres. Et ça a été un moment très fort de solidarité. Puis en milieu rural, cette solidarité a pris la forme suivante. Des personnes qui étaient âgées ou isolées, qui ne pouvaient plus aller faire leurs courses, ce sont parfois des voisins, ce sont parfois des élus qui se sont organisés. Et puis pour les étudiants étrangers, pour les étudiants libanais en particulier, mais de manière générale, tous les étudiants qui ont des parents qui vivent en Asie, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, dans les dom-toms, comme la Poste, comme Western Union se sont arrêtés pendant cette période-là, ça a été une période très difficile pour tous ces étudiants qui parfois vivent grâce aux aides que leurs parents leur envoient. Et donc là, il a fallu mettre en place, moi j'ai été immédiatement saisi par deux associations auxquelles je participe, l'association des Libanais de Montpellier, où on a été interpellé sur la situation difficile de certains étudiants qui ne percevaient plus les bourses et les mandats que leurs parents leur envoyaient, mais aussi l'association des Sénégalais dont je fais aussi partie et qui était confrontée au même problème. Ce qui nous a conduit très rapidement à dire, mais si les étudiants libanais, les étudiants sénégalais sont confrontés au même problème, c'est que tous les étudiants étrangers qui sont en métropole sont confrontés à ce problème-là. Et en allant dans les cités universitaires leur apporter un peu d'aide alimentaire avec des colis, on s'est rendu compte que les étudiants français, originaires des dom-toms, étaient aussi confrontés à ces mêmes situations et que finalement l'éloignement géographique avait plongé dans une forme de précarité beaucoup des jeunes. Et à Montpellier, il y a 60 000 étudiants. Donc voilà, c'est tout cela que nous avons mis en œuvre. Les masques, par exemple, il y a eu beaucoup de flottements dans la gestion des masques, des matériels de protection, les gants, les charlottes, les surchaussures. Lorsque le président de la République a décrété le confinement, pour ce qui me concerne, en 48 heures, j'ai appelé les 9 lycées de la région sur la métropole de Montpellier, des lycées auxquels je siège, parce que je suis conseiller régional, et j'ai demandé au proviseur si je pouvais passer récupérer ce matériel-là qui était stocké dans les lycées, mais qui ne servirait à rien puisque les lycées étaient fermés. Et c'est comme ça que j'ai pu, en 48 heures, en centralisant les masques de ces 9 lycées, rassembler 50 000 masques que j'ai porté dans les EHPAD, que j'ai porté dans les cliniques et dans les hôpitaux, pour permettre justement à ces établissements-là de pouvoir les mettre à disposition de leur personnel et de leurs résidents.
Hussein Bourgi, vous avez été sensible à l'explosion du 4 août à Beyrouth. Le Liban est un pays qui vous est cher. Vous avez mené des actions de solidarité pour aider les Libanais. En tant que sénateur, vous resterez mobilisé pour aider le Liban à se relever ?
Effectivement, sur la ville de Montpellier, avec l'Amicale du Liban, nous avons initié très rapidement un mouvement de solidarité qui nous a conduit à récolter des dons financiers, des dons en matériel. Et avec les dons financiers, nous avons pu acheter 10 tonnes de farine. Et avec les dons matériels, nous avons pu rassembler de quoi envoyer des produits d'hygiène, des produits de première urgence, des produits pharmaceutiques, des produits médicaux, des fauteuils pour des personnes en situation de handicap, des béquilles, des compresses, des bandes, donc tout ce qui permet, des seringues, tout ce qui permet au personnel médical et au personnel soignant d'apporter de l'aide de première urgence, du secours pour les personnes en difficulté. Ça correspond à peu près à une trentaine de tonnes que nous avons envoyées au Liban avec l'opération Un bateau pour le Liban de la CMA-CGM, donc bateau bateau qui est parti de Marseille. Aujourd'hui, nous continuons cette mobilisation en ayant sollicité toutes les grandes compagnies et tous les grands festivals de Montpellier. Avant-hier, c'était le festival Arabesque qui débutait. Et il y a eu une première soirée en l'honneur de la solidarité avec le Liban. Ce week-end, il y a un week-end très important dans le cadre de ce festival où l'Amicale du Liban a été invitée à tenir un stand pour recueillir des dons. Dans quelques jours, c'est les internationales de la guitare qui commencent. Et de la même manière, là aussi, nous avons été invités à assurer une présence pour rencontrer le public, pour récolter des aides et des dons. Pareil pour l'orchestre de Montpellier qui, à l'occasion des journées du patrimoine, va organiser un concert dont les bénéfices seront reversés pour la solidarité avec le Liban. C'est le cas aussi du Centre dramatique national du Théâtre des 13 ans à Montpellier ou de Montpellier Danse avec Jean-Paul Montanari. Donc les acteurs culturels sont très mobilisés localement et j'ai aussi eu la chance de pouvoir compter sur la solidarité des frères Courcelles. Vous savez, ce sont ces frères, ces jumeaux étoilés qui ont ce restaurant que tout le monde connaît peut-être de nom, le Jardin d'Essence, et qui ont eux aussi des relations très fortes avec le Liban, qui ont décidé d'organiser un dîner de gala en solidarité avec le Liban dans quelques semaines lorsque la situation sanitaire évoluera. Aujourd'hui, je pense qu'après le temps de la solidarité, viendra nécessairement le temps de la reconstruction et de la rénovation. Reconstruction du pays, naturellement, rénovation de la pratique politique dans ce pays. Il n'est pas normal qu'un petit pays comme le Liban, qui est plein d'atouts, plein de richesses, plein de potentialités, vive dans cette situation depuis tant de décennies après la guerre civile. Il y a des situations qu'il faut constater, qu'il faut regretter, mais qu'il faut aussi dénoncer. Cette corruption endémique, ce pays qui regorge de richesses, mais malheureusement, ces richesses, elles ne sont pas toujours mobilisées à bon escient au service de la population et au service de l'intérêt général. Je pense qu'il faut positiver ce qui vient d'arriver au Liban. Il y a eu une prise de conscience du peuple libanais, il y a eu une prise de conscience des capitales et des pays amis du Liban qui doivent accompagner avec beaucoup de bienveillance, mais aussi avec beaucoup d'exigence, le personnel politique de ce pays à se remettre en cause et à entendre la voix du peuple, à prendre en compte les attentes du peuple. Ces attentes, elles sont aussi celles de participer au nouveau cycle qui doit s'ouvrir pour ce pays. J'ai entendu avec beaucoup de satisfaction le président de la République dire que nous devions peut-être aller vers un Liban laïque. Je dis enfin. Enfin, parce que c'est ce grand principe qui, je pense, a permis à la France de se construire, de s'affirmer dans le temps et dans la durée, qui a permis effectivement de surmonter les écueils et les conséquences des guerres de religion qui avaient pu avoir lieu en France entre les catholiques, les protestants. La laïcité, ce qui permet à chacun de vivre avec ses convictions religieuses, philosophiques, mais qui nous permet tous de vivre ensemble et de bien vivre ensemble. Et dans un pays comme le Liban, qui compte une petite vingtaine de confessions religieuses, je considère que le citoyen ne doit pas être enfermé, reclus dans sa communauté religieuse. La famille, la communauté, le quartier, le voisinage, le village ou la ville de naissance, d'appartenance, ce sont des lieux refuges, mais ils ne doivent pas être des lieux qui coupent du reste de la population, parce que ce qui importe le plus, c'est d'être citoyen d'un même pays. Et pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Et lorsque je vois les solidarités se créer, se construire à l'échelle de notre association à Montpellier avec l'Amicale du Liban, vous avez des Libanais, vous avez des Franco-Libanais, vous avez des Français qui sont des amis du Liban parce qu'ils y ont travaillé, parce qu'ils y ont exercé, parce qu'ils y ont vécu. Et finalement, ce qui me frappe, c'est cette pluralité, cette diversité lorsque nous avons des jeunes qui arrivent année après année, qui s'installent à Montpellier, lorsque nous avons des familles qui rejoignent l'association, mais en fait, on ne fait pas de différence en fonction de l'appartenance ethnique, religieuse, de la région dont sont issues les personnes. Et finalement, je retrouve cette volonté de vivre en commun, de bâtir en commun, que j'ai pu apprécier au Sénégal pendant 18 ans. Vous savez, au Sénégal, lorsque j'y suis né, lorsque j'y ai grandi, les Libanais vivaient ensemble en faisant fi de ces différences religieuses. Et on pouvait tout à fait être musulman et faire toutes les fêtes chrétiennes et aller souhaiter la bonne fête à ses compatriotes qui étaient libanais et de confession chrétienne. Et à l'inverse, lorsqu'il y avait des fêtes religieuses musulmanes, il était très courant et voire systématique de recevoir la visite des voisins, des amis qui étaient, eux, libanais de confession chrétienne. Et c'est cette alchimie entre les hommes et les femmes, indépendamment de leur différence, qui m'a beaucoup plu. Et c'est ce qui faisait le sens de la communauté libanaise au Sénégal. Mais plus généralement, lorsque les Libanais sont expatriés, j'ai le sentiment que le sentiment communautaire est beaucoup plus fort que l'appartenance à une région, à une ethnie, à une religion, à une confession. Et je pense que c'est ça qu'il faut souhaiter pour le Liban et pour les hommes et les femmes qui y vivent aujourd'hui et qui aspirent à vivre autrement, à vivre autre chose. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de résignation, il n'y a pas de renoncement. Et je dis toujours que la résignation, c'est l'antichambre du défaitisme. Ce pays a subi suffisamment de difficultés, suffisamment de crises, suffisamment de défaites, qu'elles soient sociales, économiques, géopolitiques, pour qu'il se relève maintenant et qu'il reparte de l'avant en brisant les chaînes qui, pendant très longtemps, l'ont asservi.
Merci Hussein Bourgi. Je rappelle que vous êtes conseiller régional PS d'Occitanie et candidat au sénatorial du 27 septembre. Bonsoir.
Bonsoir.